Est-ce que vous êtes là ce matin? Quels sont ceux qui sont là? D'habitude, je pose cette question au début de la réunion. Parce qu'il y en a toujours qui sont dans leurs pensées, et ça m'arrive aussi, complètement ailleurs. Alors, quand je pose la question, la moitié de l'auditoire lève la main, les autres sont encore préoccupés. Donc, je repose la question, puis là, j'ai plaisir à le faire maintenant. Quels sont ceux qui sont là ce matin? Il y a déjà un peu plus de monde qu'il y a quelques minutes. Voilà, nous voulons être ensemble ce matin, être ensemble. Voilà, être ensemble, ça ne veut pas dire être tous les mêmes. On peut être différents, d'ailleurs Dieu fait de nous des gens différents, mais complémentaires. Et nous sommes différents parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est ainsi que Dieu a besoin de nous. C'est son plaisir, c'est sa décision. Il ne veut rien faire sans nous. Bien sûr, il a tout accompli. Mais après, il nous passe le relais, il dit, allez, mets-toi au boulot, lève-toi. Allez, tu es appelé à servir. L'armée du salut avait ce sigle sur ses vêtements. Sauvé pour servir. Et c'est notre sigle, à nous. Ce n'est pas peut-être marqué sur la casquette, mais c'est marqué dans notre cœur. Sauvé pour servir. Ce que Dieu a fait pour nous, nous voulons le dire. Nous voulons le communiquer de tout notre cœur. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le regard. Le regard qu'on peut porter, le regard que l'on peut recevoir. Et on peut, au travers d'un regard, voir beaucoup de choses. Je disais ce matin qu'au travers d'un regard, on peut détecter, par exemple, le doute, la détresse, l'amour, la joie, la souffrance, la sincérité, la haine, l'inquiétude. Non, pas ici. L'indifférence. Pense ce que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on peut encore détecter? La victoire, l'assurance, la joie. Mais il y a tellement, on peut faire une liste, elle n'est pas exhaustive. Mais c'est tout ce que l'on peut voir au travers d'un simple regard. Là je te regarde, je ne vois rien. L'attente, oui. Mais si nous pouvons, nous, simple mortel, voir avec certitude dans les yeux de nos frères et de nos sœurs. Et c'est vrai, hein? On ne se trompe pas. On dit, qu'est-ce que tu as? Tu es d'une tristesse à faire mourir. C'est incroyable. Non, c'est l'exemple, hein? C'est l'exemple. C'est pas le cas qui me dit, malheureusement. Mais enfin, ça peut arriver. En tout cas, notre jugement est juste. Et je me dis, si nous, nous pouvons, alors que nous sommes finis, enfin finis, il y a de l'espoir encore, mais voilà, on ne peut pas se refaire. Hein. Si nous, nous sommes capables avec certitude de discerner ces choses, mais à combien plus forte raison notre Dieu voit bien davantage. Et on ne peut pas le tromper, et nous ne voulons pas le tromper. Nous voulons simplement dire, Seigneur, tu vois des choses que j'aimerais que tu ne vois pas dans mon cœur. Seigneur, tu vois dans ma décision, tu vois dans ma vie des choses que j'aimerais pas tellement les voir, que tu les vois, j'aimerais les cacher. Mais la Bible nous dit que avant que nos pensées montent, il les connaît. Donc on peut pas. Alors on va pas essayer de lui échapper ce matin. Mais peut-être on va retourner la chose en disant, Seigneur, sonde-moi. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur un mauvais chemin. Et conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Alors nous voulons être de ce côté-là. Dire tant pis, puisque les carottes sont cuites, tu sais exactement ce qui se passe en moi, tu sais ce qu'il y a dans ma marmite, donc je ne vais pas te le cacher. Mais au contraire, j'aimerais que tu jettes ton regard. Je voudrais le faire, Seigneur, de cette façon. Sachant que, non seulement, le frère disait ce matin, il ne veut pas nous juger, nous condamner, mais il veut nous aimer. Et nous voulons dire, Seigneur, où je trouve mon cœur. Regarde. Alors, c'est d'un regard dont nous voulons parler. J'aimerais vous entraîner à lire avec moi dans la Genèse, au chapitre 13. Il y a un enseignement, il y a deux personnages formidables, et enfin, l'un est plus formidable que l'autre. Et au verset premier, il est question d'Abraham, qui remonta d'Égypte vers le midi, chapitre 13, verset premier. Lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, très riche en troupeau, en argent et en or. Oh, j'aurais bien aimé être le neveu d'Abraham. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable. C'est important, les petits mots de la Bible. Si considérable. Vous auriez aimé vivre de ce temps-là et être le neveu, la neveu d'Abraham? Ça vous aurait plu? Incroyable. Et Lot, c'était sa situation. Il était le neveu. Mais il était insatisfait. Et il dit, ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et alors, ils eurent des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham, les bergers des troupeaux de Lot. Je ne sais pas pourquoi ils se sont querellés. Peut-être qu'il y en a un qui avait l'herbe plus verte que l'autre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ils se sont querellés. Et alors, les bergers des troupeaux de Lot, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. C'est triste pour imaginer que des frères peuvent se disputer à ce point. Je crois que nous ne sommes pas de cela ce matin. Hein. Nous, on s'aime, on se respecte, on donnerait même notre vie pour notre frère, notre sœur, même tout ce qu'on a, on le donnerait, il n'y a pas de problème pour nous. Or, Abraham dit à Lot, écoute, on ne va pas se disputer. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit. Les mots sont importants. Lot choisit. Est-ce que vous avez choisi déjà? Est-ce que nous avons choisi? Lot choisit. Pour lui, toute la plaine verdoyante, la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà le choix de Lot. Son regard qui s'est porté vers la plaine verdoyante, vers ce qu'un regard peut voir, vers ce qu'un homme peut considérer, c'est-à-dire la défaite, le problème, la difficulté. Ça, il ne le savait pas. Mais voilà où ça allait l'amener. Et quand on lit l'histoire de ces chapitres-là, on se rend compte, Sodome et Gomorre, ce que c'était. C'était vraiment une misère effroyable. Ça ressemblait un petit peu à ce que notre monde est en train de devenir aujourd'hui. Quelque chose d'insensé, quelque chose de misérable. La Bible nous enseigne que les choses visibles, celles de Lot, sont passagères, mais que les invisibles sont éternelles. Et c'est déjà une proposition de choix ce matin qui est devant nous. Est-ce que nous considérons les choses visibles ou les choses invisibles? Est-ce que nous considérons ce matin ce que nous sommes capables de voir de nos propres yeux ou ce que Dieu voit pour nous? Et c'est important de réaliser, parce que quelquefois, en disant « Seigneur, oui, je veux faire ta volonté », on a le sentiment de perdre quelque chose. On dit « Oui, mais si je suis le Seigneur, je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire cela. » Et puis ça non plus. Alors Dieu va changer mes objectifs, Dieu va changer ma vision. Ben oui, c'est ce qu'il veut faire. Seulement, Dieu est un bon Père. Il n'est pas méchant. Il nous aime. Il ressemble un petit peu à ce Père que nous sommes et qui aime ses enfants et qui, lorsqu'il voit sa fille prendre une lame de rasoir, il va s'empresser pour la lui enlever. Quel mauvais Père! Quel mauvais Père! Tu te rends compte? Et non, c'est parce qu'il l'aime. Et il ne veut pas que son fils ou sa fille se blesse. Et Lot, c'est un petit peu comme s'il avait une lame à rasoir dans les mains. Son choix l'a amené à une détresse incroyable. Il est descendu. Ça, c'était son choix personnel. Il a dit, Lot leva les yeux. Il n'a même pas considéré qui était Abraham. Il n'a même pas considéré son oncle en disant, oh, je t'en prie, c'est à toi de choisir. Moi, je suis avec toi. C'est pas toi qui es avec moi, c'est moi qui suis avec toi. Et moi, j'ai bénéficié de ton savoir, de ta bénédiction. J'en ai bénéficié. Voilà comment aurait dû réagir Lot. J'ai bénéficié de cette grâce de Dieu. Et Lot nous a dit, il vit. Lot leva les yeux, lui, et il vit toute cette plaine. Waouh, incroyable. Il a oublié Abraham. Il a dit, ouais, chic, je choisis. Waouh, je vais prendre ce qui est le meilleur. Abraham, il te restera les restes. Je ne sais pas quelle était sa pensée, mais en tout cas, c'est net. Il a choisi. Il a choisi. Et son choix le mène de la bénédiction à la malédiction. C'est dramatique, le temps appartient à Dieu. Quelquefois, on dit, vous savez, quand on fait un jardin, on sème des carottes, on sème des pommes de terre, et on sème toutes sortes de choses, mais les choses ne poussent pas en même temps. Il y a elles qui mettent du temps pour pousser. D'autres lèvent, comme les radis, ça lève rapidement, ça. Puis il y a des choses, il faut des mois. 90 jours pour les pommes de terre, c'est ça? Il faut du temps. Mais ce que nous faisons aura toujours une portée en son temps. Quelquefois, on dit, oh, ça va, tout va bien. Tout va bien pour moi aujourd'hui, j'ai pris une bonne décision. Mais laissez le temps agir. Et c'est le temps qui nous amènera à une considération sur notre choix. Là, eh bien, il nous est dit que Lot a fait un choix tragique. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Il y avait là toutes sortes de vices, toutes sortes de dérèglements. L'homosexualité, toutes ces choses. Vous lisez vous-même ce chapitre, vous verrez, c'est énorme ce qui peut se passer là. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi? Des choix tragiques. Et ce choix donc l'amène de la fertilité à la stérilité. Les anges qui viennent pour secourir Lot et lui dire, écoute, tu as pris une mauvaise voie, tu as pris un mauvais chemin, il faut que tu te sortes de là. Viens, viens, je suis venu pour toi. Nous sommes venus pour toi. Et Dieu nous interpelle, Dieu nous parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Et Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut me parler ce matin. Afin de nous dire, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu as choisi? As-tu réfléchi? Est-ce que tes pensées sont celles de Dieu? Ou est-ce que ce sont tes pensées, ton choix? Voilà où ça peut te mener. Et c'est quelque chose de terrible. La stérilité. Le sel, c'est quelque chose, un peu de sel. Mais si vous mettez trop de sel dans la nourriture, c'est immangeable. Et si on met trop de notre choix dans notre vie, c'est invivable. C'est quelque chose d'incroyable, ça. Alors, il fait des choix tragiques, malgré l'avertissement des anges qui le pressent de s'en aller. Et on voit là, au chapitre 19, verset 14, il perd ses gendres. Les gens ne veulent pas le suivre. Ils croient que c'est de la blague, c'est de la rigolade. Eux, ils sont déjà bien dans Sodome et Gomorre, bien dans la méchanceté et dans le vice peut-être. En tout cas, ils veulent pas suivre, ils veulent pas s'en aller. Et les anges le pressent et disent « Fuis pour ta vie !» Et puis, dans la course, Madame Lot a des regrets. Dans la course. Dieu vient et nous secourt. Et nous donne de participer à une vie nouvelle. Et puis, quelquefois, on a des regrets. Il dit quand même, est-ce que j'avais décidé, c'était pas si mal que ça. Et alors, elle jette un regard en arrière. Vous savez, ce regard qu'on porte quelquefois, en disant, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Dans les médias, oui. Mais avec le temps, Lot a certainement des regrets. Madame Lot regarde en arrière, devient une statue de sel. Et je crois que c'est dur et c'est dramatique, après avoir connu l'Évangile, après avoir marché avec le Seigneur, de jeter un regard en arrière et de regretter. Les oignons d'Égypte, c'était quand même pas mauvais. Oui, mais c'était l'esclavage. C'était l'esclavage. Et Dieu nous rend libres. Alors, puissions-nous prendre cette leçon et ne pas faire comme Lot a fait. En tout cas, Lot sort, il fuit, il perd sa femme, il se retrouve presque tout seul. Voilà. Mais enfin, sa vie est sauve après beaucoup de problèmes. Il y a un autre regard dont je parlais ce matin, qui est celui de Michal, la femme de David. Vous connaissez ? David, c'était un homme de Dieu, c'est un homme qui aimait Dieu et l'arche a été remise. Et alors que l'arche arrive, David est tellement ému, il est tellement heureux de la présence de Dieu et il se met à danser, il se met à sauter. Est-ce qu'on pourrait ce matin se lever, monter sur les chaises et danser un petit peu ? Non, on n'a pas le droit ? Mais enfin, imaginez, David, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. Il le souhaitait dans son cœur. Et c'est une délivrance pour lui, c'est une bénédiction. L'arche est là, la présence de Dieu est là. Et il se met à danser et à chanter certainement. Et sa femme, là, qui a une petite fenêtre au deuxième étage, elle regarde et dit, mon pauvre, mon pauvre. Elle le méprise. Elle dit, mais c'est honteux ce que tu fais. Tu te découvres là devant tes sujets. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Mais pourquoi tu te réjouis comme ça? Elle n'y comprend rien, elle. Et au travers de ce que David fait, c'est elle qui se sent humiliée. Et je crois que David dit, je dansais devant l'Éternel. Je manifestais ma joie. Et elle l'a méprisée. Et vous savez le résultat? Elle est devenue stérile. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie en elle. Alors, faisons attention ce matin à la façon dont nous regardons nos frères et sœurs. Faisons attention à ce que nous disons sur nos frères et sœurs. Parce qu'il n'y a pas une bénédiction à maudire les autres. Il n'y a pas une bénédiction à juger les autres. Lot en a fait les frais. David en a fait. La femme de David en a fait les frais. Et nous le voulons ce matin considérer ces choses. Seigneur, aide-nous à bénir. Nous sommes appelés à bénir. Bénissez, ne maudissez pas. C'est un conseil de Dieu et nous voulons le suivre. Alors ça, c'est le côté négatif. Le regard de Michal, le regard de Lot, c'est quelque chose que nous ne voulons pas considérer pour notre vie. Par contre, il y a un autre regard. Et c'est celui-là qui m'intéresse ce matin. Quand on poursuit la lecture, on voit qu'au verset 14 du même chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham. Ça change de ton. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes, vers le nord et le midi, vers l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Sarah était stérile. C'est un problème pour elle. Elle aurait voulu que les choses changent. Et le fait que Abraham obéisse à l'Éternel, le fait qu'il se concentre sur la volonté de Dieu, va dans quelque temps changer toutes les choses, va changer toutes les donnes. Et Sarah, qui était stérile, va devenir enceinte et elle va avoir toute une génération. Et nous sommes le résultat, bien quelques millénaires après, nous sommes le résultat de cette confiance que Abraham a eue en Dieu. Un autre regard. Lève les yeux et du lieu où tu regardes, vers le nord, le midi, vers l'orient, l'occident. Car tout le pays, je te le donne à toi. Alors il est dit après, au verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et c'est extraordinaire quand on voit ce regard, un regard d'Abraham sur les choses invisibles. Il a simplement fait confiance à Dieu. Il n'a pas regardé avec son intérêt personnel. Il a dit, toi, tu choisis ce que tu veux. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, mais moi non. Moi, je marcherai, je regarderai, je considérerai la volonté de Dieu. Et Dieu lui a parlé. C'est intéressant quand Dieu nous parle. Quelquefois, on a peur que Dieu nous parle, parce qu'on a peur qu'il nous enlève ce qu'on a, ou du moins ce qu'on croit avoir. Il a peur qu'on enlève nos petites choses auxquelles nous sommes attachés, nos habitudes, nos traditions, nos petites religions, nos petits actes religieux. Il a peur qu'on enlève tout ça. Ouais. Abraham n'a pas peur. Et il fait confiance à Dieu. Et là, c'est la voix de Dieu qui lui parle. L'Éternel dit à Abraham. Et là, on se rend compte que Abraham a connu des choses formidables. Un regard conseillé par Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Si Dieu nous parlait ce matin. Vous pouvez imaginer que Dieu nous parle? Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous parler? Il parle par sa parole. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, il ne parle jamais pareil. Mais au travers des circonstances, au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'un problème, peut-être au travers simplement d'une communion avec lui, Dieu veut nous parler. En tout cas, il est certain qu'il parle. Vous savez, ici, dans ce lieu, il y a des tas de choses, il y a des tas de bruits, il y a des tas de paroles que l'on ne discerne pas. Il y a des tas de fréquences ici, il y a toutes sortes de radios, toutes sortes d'images que l'on ne voit pas. Parce qu'on n'a pas le détecteur. Mais il y a France, il y a RTL, il y a toutes sortes d'émissions qui passent ici. Et on n'a pas le décodeur. Donc on n'entend rien. Mais si vous avez le décodeur, vous pouvez le caler sur la fréquence et vous entendrez ce qui se passe ici. Ce qui passe. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Il nous faut avoir le décodeur. Et le décodeur, c'est la parole de Dieu. De pouvoir nous laisser instruire. Nous laisser diriger, nous laisser conduire, afin d'entendre l'invisible. Dieu, c'est celui qui s'occupe de l'invisible, de ce que nous ne voyons pas, mais qui est pourtant tellement réel. La volonté de Dieu, La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. La nôtre nous amène bien des problèmes et bien des soucis. Alors c'est un choix ce matin. Qu'est-ce que nous voulons faire? Continuer en disant « Seigneur, bénis mes pensées. Seigneur, bénis mes choix. » Nous pourrions peut-être dire l'inverse, « Seigneur, quels sont tes choix ? Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Seigneur, je suis prêt à tout perdre afin de tout gagner. » Abraham, quel choix tu as fait ? Quel choix extraordinaire. De la stérilité à la fertilité. Un avenir merveilleux. L'Éternel, au chapitre 21, verset 1er, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel a une mémoire extraordinaire. Moi, je perds un peu la mémoire. Avec l'âge, ça arrive. J'ai eu 35 ans. Ça fait longtemps, dit Dani, mais je les ai eus quand même. Quel âge avez-vous? Dans quel état êtes-vous? Comment ça va la mémoire? Dieu a une bonne mémoire et il se souvient des promesses qu'il nous a faites. Je serai avec toi tous les jours. Je prendrai soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Ce sont les promesses de Dieu. Et nous, on a un problème avec le temps. Dieu est le maître du temps. Il fait ce qu'il veut, ce que lui semble bon en son temps. Et ce que Dieu nous demande, c'est simplement de lui faire confiance. Abraham, quel risque il a pris. Choisis-toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ce n'est pas mon problème. Et je m'en fiche. Parce que moi, j'ai un autre sens de direction. Moi, je veux me laisser guider par Dieu. Et je sais que ce que je crois perdre aux yeux des hommes, ce que je crois perdre, c'est une bonne perte. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est ce que je peux gagner dans la présence de Dieu. Alors, faisons cette différence ce matin. Osons dire, Seigneur, je veux te laisser tout. Je veux te laisser les rênes, la direction de ma vie, même si je passe par des moments difficiles. Et c'est une promesse, je le disais ce matin, c'est une promesse de Dieu. Si vous en voulez une, je suis venu pour vous apporter une promesse ce matin. Vous aurez des difficultés. Vous aurez des problèmes. Ça, c'est la mauvaise partie, mais c'est une réalité. Vous aurez. Quand on échappe aux mains, aux griffes du diable, certainement, il n'a que de cesse de nous récupérer et de mettre des pots de banane devant nos pas, afin que nous puissions nous mettre le nez par terre. Mais le but de Dieu, c'est de nous bénir. Et il dit la suite, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le malin, j'ai vaincu le monde. Alors, c'est une parole de Dieu. Ou je la crois, ou je veux faire le travail moi-même. Prenez courage, parce que j'ai vaincu le malin. Moïse, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que Dieu est puissant? Est-ce que tu crois qu'il est capable de tout s'asservir? Il est capable de dominer toutes les circonstances de ta vie? Alors je veux le laisser ce matin, dire Seigneur, j'ai du mal à saisir ça, c'est trop beau. Seigneur, j'ai du mal à saisir que quand je laisse tous mes projets, je te fais confiance, je me tiens en ta présence et tu prends soin de moi et tu as des objectifs pour ma vie et tu me considères, parce que c'est toi qui m'as créé, et tu m'aimes suffisamment pour créer un espace de vie devant moi, me rendre heureux en son temps. Et ça, c'est le domaine de la foi. Je peux expérimenter ça si j'ai la foi. Abraham, c'est l'homme de la foi. Il a cru. Il voyait rien. Il a cru. Et je crois que ça commence par la foi. Nous voulons ce matin faire cet exercice et relever ce défi. Seigneur, je veux croire en toi. Je veux croire que ce que tu dis est la vérité. Je veux croire que tu as un projet pour ma vie. Je veux croire que tu as des bénédictions en réserve. Non pas collectivement, individuellement. Je ne suis pas une collectivité, moi. Je suis un individu que Dieu a créé. Et Dieu a dit, j'aurai les regards sur toi. Je prendrai soin de toi. De toi. Dieu nous voit. C'est ça sa particularité. Moi, je vous vois tous, mais je ne suis pas capable de voir individuellement tout le monde en même temps. Mais Dieu nous voit, lui, comme des personnes privées, particulières. Et Dieu te voit comme une entité. Et c'est pour toi qu'il est mort, et c'est pour moi qu'il est mort. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui l'acceptent, ceux qui le considèrent, ceux qui disent, Seigneur, conduis-moi, prends-moi par la main. Qu'est-ce qu'a fait Samuel? À un moment donné, il a entendu plusieurs fois la voix de Dieu sans la discerner. Heureusement qu'il avait un coach, heureusement qu'il avait un ami à côté, qui lui a dit, fais gaffe, parce que quand Dieu parle, ben réponds-lui. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Et Dieu nous parle. Dieu nous parle d'une manière tellement différente, mais personnelle, privée. Dieu nous parle. Peut-être Dieu vous a déjà parlé. Mais nous ne prenons pas garde. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Ne faisons pas attention aux circonstances. Ne faisons pas toujours attention à sa parole. Et on croit toujours que Dieu parle aux autres. Alors que Dieu nous parle à nous. Et Dieu veut nous prendre et nous prendre par la main et nous conduire. Non pas vers la destinée de tout le monde, vers notre destinée. C'est quelque chose de privé, la volonté de Dieu. Elle est bonne, agréable, parfaite pour moi. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour moi. Elle est pour chacun de nous. Et ça, c'est extraordinaire ce que Dieu veut faire. Et je ne veux pas être trop long. Mais en tout cas, la stérilité, j'en veux pas. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à grandir. Et Dieu dit que si nous portons du fruit, il nous émonde. Parce que son désir, c'est pas de nous faire souffrir. Parlez-en à la vigne. Mais au plus elle est émondée, au plus les grappes sont grosses, au plus le jus est bon, au plus le vin est merveilleux. Et la Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Bien sûr, ce n'est pas une excuse pour en boire trop, mais ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est cette joie que Dieu veut remplir mon cœur. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alors, je veux conclure. À quoi tient la bénédiction d'Abraham? À quoi tient sa réussite? Parce que quand même, on peut considérer qu'il a réussi. Hein. Il a fait un long voyage. Et puis, le but, c'était le pays de Canaan. C'était ce que Dieu lui avait promis, lui avait réservé. Madame Sarah était stérile. Tout change, la bénédiction. Une grande nation sort de son sein. Et la promesse de Dieu se met en place. Et Abraham voit ça de ses yeux. Il voit cette promesse se réaliser. À quoi tient sa réussite? La première fois, j'ai 4 points à partager. L'obéissance. Il nous est dit en Genèse chapitre 12, verset 4, Abraham partit.
Ouais, ok.
On peut partir aussi, nous. Mais il y a un petit mot. J'aime les petits mots qui font tout basculer. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Quelquefois, on part, on lance des projets, mais on oublie que c'est comme. L'Éternel lui a parlé et Abraham a fait comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que nous sommes certains dans tous nos projets, dans toutes nos actions, de faire comme le Seigneur nous l'a dit? De faire comme le Seigneur l'a voulu. Je pense que c'est une question que nous avons besoin de nous poser. La deuxième, c'est la relation avec Dieu. L'Éternel, au chapitre 12, verset 7, l'Éternel lui apparut et il dressa ses tentes près de Bethel. Bethel, c'est maison de Dieu. Abraham commença à entretenir une vie. Et il est dans la présence de la maison de Dieu. Il vient dans cette maison pour entendre Dieu lui parler, afin de grandir. Et c'est bon d'être là ce matin. Bien sûr, la maison de Dieu, ce n'est pas ce local, c'est notre cœur. C'est la maison de Dieu. Mais Abraham a créé une relation, entretient, démultiplie une relation avec Dieu. C'est un de ses secrets. Le troisième, c'est la communion. Dans le chapitre 13, verset 18, il vint habiter à Hébron, qui veut dire union, communion. Il vint. Personne ne l'a obligé. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est obligé, imposé. C'est un libre choix. Il a réalisé combien Dieu est bon, il n'a plus envie de le quitter. Et, il y a quelque temps, on parlait, je ne sais pas comment on était amené à parler du salut éternel. Donc, on est sauvé une fois pour toutes, et puis on peut faire tout ce qu'on veut, et puis voilà, on est sauvé. Mais il vint habiter. Et je crois que, moi je crois au salut éternel dans la mesure où on vient habiter avec Dieu. Si on est dans sa main, si notre main est dans la sienne, il n'y a aucun danger pour nous. La communion, un autel avec Dieu. Et puis le quatrième, c'est la confiance. Chapitre 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. C'est formidable. Pouvons-nous ce matin mettre notre confiance en Dieu? 4 points, très simples. Je les ai relevés parce que ça m'a frappé. L'obéissance, commence par là. Seigneur, ce que tu dis, je veux me soumettre à cela. Ce que tu dis, je veux le considérer. Je veux le croire. Je veux exercer ma foi dans ce que tu dis. Je veux créer une relation avec toi. Seigneur, je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Et c'est vrai que c'est important de connaître celui en qui on met sa confiance. Jésus dira, je suis le bon berger, mes brebis me connaissent. Moi, je connais mes brebis, mais elles me connaissent. Alors quand on connaît Jésus, quand on sait qu'il nous connaît, on lui fait confiance, parce qu'on sait qu'il ne nous trompe pas. Si Dieu nous fait une promesse, on sait qu'il ne nous trompera pas. Parce qu'il a le pouvoir de veiller sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et je crois que c'est bon. Moi, je suis rien du tout. Je suis un tout petit bonhomme. Mais combien je peux considérer que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Peut-être nous pouvons considérer là, si nous avions le temps de rendre témoignage, pour dire oui, Dieu a été fidèle dans telle circonstance. Dieu a été fidèle dans telle circonstance. Alors que là, je croyais que tout était perdu. Dieu m'a fait grâce et ma vie a changé. Et c'est ce témoignage que Abraham peut rendre. Donc, rappelez-vous, obéissance, relation avec Dieu, communion et confiance. Et la conclusion, c'est, je laisse Jean, chapitre 10, verset 14, connaître ce Dieu à qui nous voulons faire confiance. Est-ce que nous voulons lui faire confiance ce matin? Est-ce que nous voudrions relever un défi et dire, Seigneur, je ne suis pas assis sur cette chaise pour occuper une place. Je ne suis pas là, par habitude. Je ne suis pas là simplement parce que ça tranquillise ma conscience. Voilà, j'ai fait mon petit devoir religieux. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que Dieu a besoin de moi. Parce que Dieu veut me faire grandir. Parce que Dieu veut me communiquer sa volonté. Et Dieu nous considère ce matin comme des individus qu'il a sauvés par grâce. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chacun de nous. Personne ne peut dire ce matin, je suis trop petit. Moïse disait, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler. Alors, non, c'est pas, ça ne marche pas devant Dieu, ça. Si Dieu a un projet, il a la volonté de l'accomplir. Simplement, ce matin, est-ce que nous voulons lui faire confiance? Est-ce que nous voulons entendre la voix de Dieu ce matin? Et lui dire, Seigneur, je ne sais pas où tu veux me mener. C'est sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque. Si vous lui dites, Seigneur, prends ma vie, il la prend. Le problème, c'est de ne pas la récupérer après. C'est ça le problème. On dit, Seigneur, je veux te suivre. Pierre avait dit ça. Je veux te suivre jusqu'à la mort, je te suis, moi. Puis la première occasion, il l'a renié. Alors Dieu nous connaît, Dieu connaît nos pensées. Dieu veut nous encourager. Et Dieu veut nous dire ce matin, tu sais ce que tu es. Tu es formidable. Parce que pour te sauver, j'ai payé le prix fort. Est-ce que tu peux estimer combien tu coûtes? Est-ce que tu peux ce matin estimer combien tu coûtes, combien tu as coûté à Dieu pour te sauver? Dieu a payé le prix, on ne pouvait pas payer plus cher. Donc ne dis plus jamais, je ne suis rien. Ne dis plus jamais, je suis trop petit. Parce que Dieu a payé le maximum pour te sauver. Donc devant cette réalité, je veux dire, Seigneur, puisque tu as payé si cher pour moi, puisque j'ai de la valeur à tes yeux, alors conduis-moi. Fais de moi ce que tu veux. Et je sais que tu vas le faire. Et c'est ça le risque. Mais Seigneur, je suis d'accord. Je suis OK. Seigneur, parle. Ton serviteur. Écoute, est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi? Seigneur, tu vois, moi, je suis trouillard, je suis peureux. Seigneur, tu vois, il me semble que je n'ai pas beaucoup de qualités. Et Dieu dit, je m'en fiche de tes qualités. Moi, ce qui compte, c'est ma volonté. Et Dieu est capable, c'est vrai, quand on regarde, Dieu est capable de tellement faire de choses mystérieuses et miraculeuses qu'il est capable de nous transformer. Il est capable de nous donner les capacités incroyables pour accomplir le plan qu'il a pour notre vie. Dieu a un plan pour ta vie. Ne t'occupe pas des capacités que tu as. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne va pas donner un travail de maçon à un électricien. Il ne va pas donner un travail de boulanger à un boucher. Dieu sait ce qu'il fait. Si Dieu veut t'appeler ce matin, c'est qu'il te donne les capacités pour accomplir sa volonté. Alors on va terminer. Est-ce que vous voudriez ce matin relever un défi? Et peut-être vous présenter, me présenter devant Dieu, nous présenter ensemble devant Dieu. Dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Tu m'as un petit peu frileux. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Qu'est-ce que tu vas me demander? Si je te dis, fais de moi ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas devenir un outil entre les mains de Dieu, une personne formidable qui va servir l'Éternel de tout son cœur. Et j'aimerais simplement prier avec vous. J'aimerais vous demander, ceux qui veulent relever ce défi, dire, Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Je ne comprends rien, parce que je ne sais pas ce que tu veux, mais moi, je veux te dire, comme Samuel, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut se lever dans cette attitude, dire, Seigneur, banco, Seigneur, je veux prendre cette décision. Je ne sais pas où tu peux mener, mais je veux te faire confiance. Quels sont ceux qui veulent faire confiance à Dieu ce matin? Et dire, Seigneur, je veux que ma vie serve à quelque chose. Seigneur, prends-moi entre tes mains. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi pour bénir et encore bénir et servir à tes projets. Dieu veut que nous puissions le servir avec joie. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous voit. Dieu lit dans notre cœur. Il voit notre incapacité, mais il voit notre bonne disposition. Ce qui compte ce matin, ce n'est pas notre capacité, c'est la sienne. Seigneur, je me livre à toi ce matin. Seigneur, je me lève devant toi. Et je te dis, lis dans mon cœur. Lis dans mon cœur. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dites-le ce matin. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, prends la direction de ma vie. Seigneur, je remets mes projets entre tes mains. Seigneur, tout là, ça ne compte plus. Fais de moi ce que tu veux. Alléluia. 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 Louons le Seigneur ensemble. Disons-lui notre amour. Alléluia. Seigneur, tu vois, mes frères et sœurs sont là debout. Moi aussi, je suis debout, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi. Tu n'es pas là pour nous tromper. Tu n'es pas venu pour nous tromper. Mais tu es venu pour nous aimer. Et Seigneur, nous voulons croire en cet amour. Cet amour qui nous respecte, cet amour qui nous aime sans condition. Seigneur, nous voici devant toi. Sers-toi de nos vies. Conduis-nous. Ouvre les portes. Gère. Et Seigneur, ce que nous souhaitons ce matin, c'est que tes pensées deviennent nos pensées. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Alléluia.
Je suis est à toi.
Sers-toi de moi.
Me voici.
Me voici.